Vous remercie à mon tour de votre invitation qui tombe à un moment particulier pour moi puisque d'un côté j'ai accepté d'écrire un livre sur la COVID en perspective historique et je suis au milieu de ce livre et puis de l'autre mon papa est en train de mourir du COVID. Donc un peu particulier quand même comme contexte. Alors j'avais choisi ce titre au fond un petit peu racoleur peut-être, ou un peu rapide, parce que j'avais compris qu'il s'agissait de la première séance de séminaire, et que du coup, j'allais essayer de, non pas faire une introduction, mais de me lancer dans quelque chose d'un petit peu plus perspectif, général, et sur une longue durée, en fait, et un petit peu pluridisciplinaire de temps en temps, de cette question. Donc, je vais commencer par parler de notre expérience quand même, parce que pour les historiens, en tout cas des épidémies, rencontrer à un moment donné une épidémie de cette dimension, une pandémie de cette dimension, et d'assister à tous les dysfonctionnements qu'elle entraîne dans la société, a quelque chose d'assez troublant au fond. Nous voyons bien que les épreuves s'imposent dans tous les domaines de la vie personnelle, la vie sociale, la vie économique, culturelle, politique, qu'elle joue aussi sur les équilibres internationaux, j'y reviendrai sûrement. Alors pour l'historien, c'est un sentiment assez étrange parce qu'il voit se déployer sous ses yeux de nombreuses dimensions qui lui sont familières, au fond, des épidémies du passé, même si évidemment tout est différent et même si l'on risque toujours de tomber dans l'anachronisme qui nous guette. Et puisque tout est différent, bien sûr, les techniques, l'ampleur et la rapidité des mobilités, le niveau de la médecine, de la science, etc., etc. Mais enfin, je vais quand même lister un certain nombre des dimensions épidémiques qui, pour l'historien, sont familières. D'abord, la limitation de la circulation et la restriction des libertés de mouvement et des libertés publiques. Nous expérimentons cela depuis quelques mois. Les fortes répercussions économiques, les enchaînements des politiques de quarantaine et de bouclage de territoire par des cordons sanitaires, si je parle de ce que nous avons connu autrefois, la suspension des activités, évidemment, qui entraîne la croissance du chômage et des difficultés sociales. Le choc pour toutes les activités culturelles, l'arrêt, l'inactivité, les réorientations individuelles de ceux qui s'y consacrent, mais aussi plus tard, des créations culturelles à partir de l'épidémie. L'instrumentalisation de l'épidémie par les acteurs socio-professionnels, les syndicats, les partis politiques. Ce que vous voyez se développer depuis 6 mois, nous l'avons vu dans le passé se développer pratiquement lors de chacune des grandes épidémies. Les protestations populaires, c'est aussi, j'allais dire, quelque chose de très habituel. La désignation de boucs émissaires, cette fois-ci, ce fut moins net et en tout cas plus bref comme épisode que dans les épidémies historiques, puisque les Chinois ont été vus d'une drôle de manière à Paris, au moins au début de l'année, en janvier-février, mais ça ne s'est pas poursuivi. Ensuite, la suffisance à l'époque, à l'approche de l'épidémie. Alors ça, c'est un phénomène de dimension anthropologique assez extraordinaire. Quand nous avons vu, nous, Français, l'épidémie sévir en Italie et en Espagne, la Covid, nous avons dit oui, bon, mais nous, notre système de santé, notre niveau de développement devrait nous protéger de cela. Évidemment, ça n'a pas suffi. Et puis, par ailleurs, plus au nord, les Suédois ont exactement eu la même attitude à notre égard, à l'égard des Italiens, des Espagnols et des Français, et ça ne les a pas empêchés de connaître l'une des plus graves mortalités en Europe. Autrefois, ce sentiment de sécurité a été développé très très fortement en France et en Angleterre, dans l'Europe occidentale en général, au début du XIXe siècle, lorsque les épidémies de choléra s'approchaient via l'Empire russe et la Pologne de l'Europe occidentale. Au fond, à ce moment-là, on le disait clairement, notre haut degré de civilisation devrait nous protéger de cette épidémie. Ensuite, la forte mobilisation des autorités politiques, publiques, aux différentes échelles territoriales se retrouve toujours. L'adaptation des mesures au développement de l'épidémie aussi, au fur et à mesure que l'épidémie se développe, que ses caractéristiques se modifient ou qu'on les perçoit différemment, les pouvoirs publics essaient d'adapter les mesures de défense et de lutte. Ensuite aussi, la suspicion des populations à l'égard des responsables politiques, une grande constante depuis longtemps. Le soupçon à l'égard des médecins, mais aussi la très forte demande en soins médicaux. J'y reviendrai. La mobilisation générale des soignants, bien sûr, avec parfois l'épée dans les reins, si je puis dire, autrefois, puisqu'on a des cas, ça a été rappelé tout à l'heure par Mme Boudon-Millot, de médecins que l'on soupçonne d'avoir voulu échapper à leur devoir et d'échapper aussi à l'épidémie. La mobilisation des religieux, des mouvements philanthropiques, des associations, tout au fil du temps, se retrouve également toujours. Et puis enfin, le plus lourd tribut payé par les pauvres, qui se retrouve vraiment toujours, pour énormément de raisons, mais on a très bien vu de quoi il s'agissait au cours de la Covid. Alors évidemment, les villes ont toujours occupé une place spécifique dans la propagation des épidémies, puisque surtout autrefois, l'épidémie arrivait par les ports, donc ce sont les villes portuaires qui étaient en première ligne, j'allais dire, tout comme ce sont les aéroports aujourd'hui. Alors évidemment, c'est une question très vaste, surtout sur la longue durée. Donc je vais me concentrer aujourd'hui sur un aspect. Comment les villes, en tant qu'entité politico-administrative, ont-elles réagi, ont-elles accumulé de l'expérience face aux épidémies? Je ne parlerai donc pas principalement des populations urbaines. Ce serait un autre sujet fort intéressant, mais pas pour aujourd'hui, mais seulement des politiques mises en place, des dispositifs mobilisés pour faire face aux épidémies. Trois temps dans ce qui est un séminaire plus qu'une contribution à un livre collectif ou un exposé, un séminaire de recherche. Tout d'abord, une rapide perspective sur l'histoire des villes confrontées aux épidémies telle qu'elle est globalement acceptée aujourd'hui par les historiens. Là, je pense aux étudiants de master. Ensuite, évidemment, les choses ne sont pas si simples que ce que je vais raconter dans la première partie de cet exposé. Donc, je vais essayer de préciser les choses pour montrer la complexité comme des questions sur deux dossiers spécifiques. D'une part, les villes italiennes et la peste noire, avec la vulgate que j'aurais donnée, et puis les nouvelles perspectives qui sont développées depuis peu. Et un autre dossier spécifique sur une période tout à fait différente, que je connais mieux, l'hygiène publique dans les grandes villes de la fin du 19e siècle et comment on en a géré à la fois la tuberculose et la définition d'îlots insalubres dans Paris. Et puis enfin, en dernier lieu, je développerai un peu un retour sur les ressorts de l'action au fond. Pourquoi mettons en place autant de mesures afin de se défendre contre l'épidémie au-delà de des obligations de survie, évidemment. Il y a souvent une réponse à la croissance démographique des villes. Le deuxième point, c'est qu'il s'agit d'organiser la ville et de maintenir son ordre social et sa prospérité, qui sont liés dans l'esprit des conseils. Alors, j'appelle conseils les municipalités, au fond, puisque je suis sur de la longue période, il est difficile de préciser le terme exact pour chacune. Et puis ensuite, j'insisterai sur cette idéologie du progrès qui remplace celle de la pureté, et je reprendrai là des éléments que j'avais donnés dans la tribune du Monde du printemps. Tout d'abord, un récit historique, à l'ancienne, j'allais dire, qui est construit sur ce qui me semble le plus largement accepté aujourd'hui parmi les historiens spécialistes des épidémies et de la santé publique. Donc tout d'abord, un fait majeur, les villes sont au cœur des épidémies. Elles sont au cœur des épidémies parce que ce sont les lieux d'importation, il y a les ports, puis d'intensification du fait de la promiscuité, de la densité des échanges humains à l'intérieur des villes, et enfin de diffusion vers d'autres lieux, parce que ce sont des centres de l'échange. Ensuite, parce que, au fond, je ne suis pas médiéviste, mais que néanmoins nos connaissances historiques deviennent beaucoup plus riches à partir de la peste noire, ce sera mon point de départ chronologique. D'autant que les villes sont alors vraiment en première ligne. Alors, de ce récit historique, je me suis amusé à faire un découpage en 5 actes. Acte 1, confrontées à la peste noire, les villes italiennes ont réagi en mettant en place un certain nombre de dispositifs de protection contre l'importation, d'une part, et à l'intérieur de leurs murs, d'organisation des secours et d'organisation de la salubrité au sein de la cité. Ce modèle, j'y reviendrai tout à l'heure, est fondé sur ce qu'a expliqué très très bien, et c'est elle la spécialiste, pas moi, Madame Boudon-Millot, de la médecine galiénique et hippocratique. Donc il s'agit au fond de maintenir l'équilibre entre les différentes humeurs du corps, équilibre qui est très fragile et qui dépend pour l'essentiel des conditions d'environnement au sens large. D'où la précaution liée au degré d'humidité, à l'effort d'identifier l'origine de miasmes possibles qui sont susceptibles d'entrer dans l'organisme et de déséquilibrer donc le fonctionnement de l'organisme, etc., etc., mais qui sont vraiment au fond la base de toutes les actions publiques des villes italiennes à cette époque-là. Même si, et là je réponds par anticipation à l'un des collègues qui a posé une question sur au fond la médecine ne reconnaissait pas la contagion et pourtant, pas en tant que telle en tout cas, et pourtant les édiles semblent, elles, avoir conscience de cette contagion et avoir agi contre elle, effectivement, c'est ce que nous allons voir dans le cas des villes italiennes face à la peste noire. C'est que, à la fois, il y a cette forme d'autonomie du politique, au fond, et de l'administratif par rapport à la médecine, mais il y a aussi une prise en compte de la médecine et de ses grands axes, de ses principaux axes, dans la manière dont on va concevoir une intervention pratique d'environnement sur la ville. Alors c'est un modèle important puisqu'il perdure globalement du XIVe au début du XIXe siècle. 4-5 siècles là, qui sont vraiment très très bien à cette échelle à laquelle je me place, très très bien organisés, qui connaissent peu d'évolution sinon un approfondissement des mesures et qui forment un système, si vous voulez, très cohérent et très très bien appliqué. Acte 2, c'est au XIXe siècle que ce grand modèle de dispositif des pestes, comme je l'appellerais, cède devant l'épidémie de choléra, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la médecine qui s'est développée au XVIIIe siècle en incorporant des découvertes récentes, des modes de compréhension du fonctionnement du corps récents, mais dans le cadre néo-hippocratique, ces thèses ne réussissent plus à se départager, j'allais dire, sur le terrain et à définir si le choléra est une contagion au sens de la variole, par exemple, qui est la grande maladie contagieuse par excellence, c'est-à-dire qu'elle se transmet directement d'un homme à ses voisins, ou, au contraire, une épidémie, et là on rejoint le cadre de pensée néo-hippocratique, une épidémie qui dépend, au fond, qui naîtrait presque des conditions d'environnement. Et donc, on voit bien que dans le premier cas, s'il s'agit d'une contagion, alors tous les dispositifs de peste anciens, sur lesquels je vais revenir, doivent être appliqués. S'il s'agit au contraire d'une épidémie au sens néo-hippocratique que ce terme porte alors, toute entrave est superflue. Donc c'est sur cette incertitude médicale, au fond, que se développent deux oppositions fortes. Une opposition des milieux libéraux politiquement, car les vieux dispositifs s'opposent à la liberté de circulation et paraissent caractéristiques, en fait, dans ce début du XIXe siècle en Europe occidentale, des régimes despotiques. Donc, quand on pense à un régime despotique en Europe occidentale à ce moment-là, on pense à l'Empire russe et à l'Empire austro-hongrois, principalement. Et puis, ce modèle traditionnel est aussi rejeté par tous les milieux libéraux, sur le plan économique cette fois-ci, qui plaident pour que les échanges ne soient pas entravés. Si bien que le choléra est déclaré non contagieux par les pouvoirs publics en 1832, à nouveau en 1854, de façon très forte, et tous les dispositifs de contrôle de peste traditionnels qui avaient été mobilisés en 1831-32 sont peu à peu abandonnés. Acte 3, une double réplique à toutes ces grandes épidémies qui passent par une forte institutionnalisation dans les villes de la mise en place d'une hygiène publique. Alors ce sont les hygiénistes, évidemment, dont a parlé notre collègue, la mise en place des réseaux d'égouts, la mise en place d'adduction d'eau systématique et un accent porté à la propreté dans la ville. Et puis, deuxième réplique, l'English System. L'English System, c'est ainsi que l'on nomme le dispositif que les Anglais mettent en place pour échapper au vieux système de quarantaine, etc., lié aux pestes. Autrement dit, on ne va pas, a priori, isoler le bateau qui arrive dans un port, on va simplement le faire accoster, vérifier qu'il n'y a pas de maladie épidémique visible à l'intérieur. S'il y a parmi les passagers ou les équipages des personnes atteintes, on les conduit vers ce qui vient d'être créé au milieu du siècle en Angleterre, les Fever Hospitals. Et puis, pour tous les autres, on va leur demander d'indiquer sur un registre l'adresse à laquelle ils pourront être visités au cours de la semaine qui suit. Donc vous êtes là sur le début, sur le plan, ce qui ne s'appelle pas encore tout à fait épidémiologie, mais sur le début des pratiques de l'épidémiologie, du traçage des cas. Et c'est une réplique qui permet à la fois de se protéger grâce à l'English System, de l'importation de grandes épidémies sans trop nuire à la liberté de commerce et à la liberté individuelle, puisqu'au fond, plutôt que d'interdire la mobilité des personnes, on va s'orienter vers le traçage des cas. Et puis de l'autre côté, dans la ville, on va essayer d'améliorer par ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les réseaux d'égouts, l'adduction d'eau, des modalités nouvelles de salubrité urbaine et de propreté dans la ville. On va essayer de faire en sorte que les conditions d'environnement dans la ville ne soient pas propices au développement d'épidémies. Donc on est encore là, à ce moment-là, sur un schéma néo-hippocratique de la maladie. Et puis enfin, acte 4, le quadrillage sanitaire. Alors le quadrillage sanitaire, il intervient un petit peu plus tard, dans le cours du 19e siècle. C'est lui qui organise à l'échelle des villes, et les villes sont cruciales à ce moment-là dans la protection contre les épidémies et leur gestion. Ce quadrillage va consister dans des casiers sanitaires, dans un suivi des vaccinations, dans une lutte contre les logements insalubres. Deux mots peut-être sur ces trois éléments. Les casiers sanitaires, au fond, c'est la première manière, après le Second Empire en France, mais ça existe aussi à la même saison, à la même époque, en Belgique et à Turin, de mettre en place à l'échelle de la ville, à la fois des visites médicales nocturnes en cas de déclaration d'épidémie, une identification sur des registres qui ressemblent à ceux des listes nominatives de recensement des cas et de leur devenir, des cas de, alors peut-être, variole, typhoïde, typhus, scarlatine, rougeole, et tuberculose, bien sûr. Donc vous voyez qu'on est à une autre époque là de cette précaution et de cette mobilisation contre l'épidémie. Ce qui est visé dans la fin du XIXe siècle, ce ne sont plus les grandes épidémies qui nous menacent venant de l'extérieur, en particulier le choléra, la fièvre jaune et la peste, de moins en moins quand même, mais ce sont les épidémies endémiques, si je puis dire, qui se sont installées depuis fort longtemps dans les villes et les régions de nos pays. Vaccination selon les pays. Alors, la première vaccination, c'est celle contre la variole, qui se développe très vite à partir des 1801, 1802, 1803, avec des résultats spectaculaires, si bien qu'il y a eu une adhésion de la population très forte, y compris encouragée par les élites locales, qui sont priées de faire publiquement vacciner leurs enfants. Et puis ensuite, ces vaccinations vont se multiplier au fur et à mesure que la bactériologie triomphante de la fin du XIXe siècle va proposer, après identification des germes, des sérums et des vaccins pour lutter contre ces épidémies. Je suis en train de penser vraiment au sérum contre le tétanos et au sérum contre la diphtérie. Et puis enfin, on va lutter contre les logements insalubres, parce que les logements insalubres, alors nous verrons, je reviendrai tout à l'heure, c'est un de mes points d'approfondissement, j'allais dire, ces logements insalubres sont définis évidemment par le ratio entre le nombre de personnes et le nombre de mètres carrés disponibles, si vous voulez. Mais ils vont être définis aussi par le nombre de décès de tuberculose. Deuxième axe, l'ampleur, la multiplication des visiteuses médicales qui, avant, les assistantes sociales, mais au fond c'est un peu la même idée, vont aller vers les foyers, vers les familles, pour s'assurer que les principaux principes de l'hygiène personnelle et de la santé publique sont respectés et appliqués dans ces familles. Et puis enfin, une forme d'aboutissement, je pense, c'est se lie dans le socialisme municipal. Vous savez qu'entre les deux guerres en particulier, beaucoup de villes autour de Paris basculent du côté socialiste et communiste. Et dans ce socialisme municipal, on a, sur le plan qui nous intéresse aujourd'hui, l'accent est porté sur la politique du logement, donc beaucoup de logements sociaux, sur une forte implantation de dispensaires destinés à faire en sorte que les enfants et les adultes ne tombent pas malades. C'est préventif, si vous voulez, ça évite l'entrée à l'hôpital. Et enfin, un grand dispositif de colonies de vacances qui, là, sont au fond une façon aussi de régénérer, si je puis dire, les grandes thèses néo-hippocratiques, puisque la colonie de vacances va permettre de changer d'air, aller dans une région où l'air est vivifiant, montagne au bord de mer, et améliorer la santé de nos jeunes enfants. Et puis enfin, axe 5, c'est l'axe qui concerne l'époque récente, l'effacement des préoccupations de lutte contre les épidémies, qu'on peut dater assez facilement des années 80-90, 1980-90. Et dans l'agenda politique des municipalités, il est remplacé comme danger sanitaire par la pollution et ses effets sur les organismes. Donc on a là une sorte de basculement qui est très nette depuis une trentaine d'années maintenant. Donc voilà la vue perspective, j'allais dire. Je reviens maintenant sur deux dossiers plus spécifiques. Et d'abord, celui sur les villes italiennes et la peste noire. Au fond, la thèse admise, même si, quand on lisait de près les différentes thèses sur les villes italiennes et la peste noire, on voyait bien que la chronologie de détail n'était pas toujours parfaite, mais personne n'en avait fait son objet d'étude. Donc la thèse admise était que, en pleine croissance démographique et économique, ces villes réagissent aux dangers que représente la peste par la mise en place de recommandations de réglementation nouvelles, qui se concernent d'abord l'organisation interne à la ville, le nettoyage des rues, la réglementation des activités des marchés et des bouchers, la régulation aussi et la réglementation des obsèques. Puisque une époque de forte épidémie, la gestion du cadavre est un vrai problème de santé publique. Et puis ensuite, ces réglementations nouvelles visent aussi à se protéger de l'importation de la maladie par un contrôle accru de l'état sanitaire des bateaux à leur arrivée. Le système des lettres patentes qui reposait au fond sur la correspondance des consuls des villes italiennes, par exemple, mais pas seulement italiennes, et les représentants, les facteurs des grandes maisons de commerce, consistait à prévenir, au fond, que dans telle ville sévissait une mortalité exceptionnelle, et dans telle autre aussi. Et les capitaines des ports étaient tenus de délivrer aux bateaux qui les fréquentaient des lettres qui étaient des sortes de certificats, si vous voulez, qui assurait qu'il n'y avait aucune grande épidémie régnante dans le port au moment où le bateau a séjourné à quai. Ce sont les fameuses lettres patentes, brutes ou nettes. Alors, net, c'est préférable à brut, parce que brut, ça veut dire qu'il y a une grande épidémie, et le net, c'est quand il n'y en a pas. Puis, on assiste aussi à la mise en place de quarantaines, de lazarets, de cordons sanitaires, afin de se protéger du côté de la terre. Mais, je vous disais que personne ne s'était consacré à un petit effort qui consistait quand même à voir pourquoi il y avait des petites discordances entre les chronologies que l'on pouvait identifier et préciser entre les différents règlements sanitaires des villes italiennes et l'arrivée de la peste noire. Et c'est notre collègue Guy Geltner qui a publié cette année, en 2020, avant que le Covid sévisse, en fait, dans Past and Present, The Past to Pistoia, Urban Hygiene Before the Black Death, et qui revient précisément sur cette question. Geltner montre, à partir d'un gros investissement d'archives, hein, une plongée vraiment minutieuse dans les archives de la ville, dans leur compréhension aussi, puisqu'elles sont écrites dans un latin tardif et particulier, donc il faut éviter de faire des faux sens ou des contresens, bien comprendre les expressions utilisées. Mais ce qu'il montre, pour l'essentiel, c'est que de nombreuses mesures ont été prises dès le XIIe siècle, et non pas au milieu du XIVe. Dès le XIIe siècle, à Pistoia, qui est une ville importante sur le plan économique, qui se situe au nord-ouest de Florence, et un peu après Prato, qui est une ville textile, marchande également, et qui présente des archives assez bien conservées. Donc, dès la fin du XIIe siècle, on dénote dans les archives une politique active de salubrité publique conduite afin de permettre la circulation des eaux et la gestion des déchets. Ce sont les deux grands obstacles, au fond, si l'on pense à la manière de penser, à la manière de construire ce qu'est sont les maladies et la santé de Galien et d'Hippocrate. Ce sont les deux grandes causes qui peuvent empêcher la circulation des eaux, qui peuvent empêcher en fait le développement des miasmes, qui pourraient déséquilibrer les humeurs de chacun des organismes et les rendre malades et faciliter l'entrée d'une nouvelle maladie. En 1296, on s'aperçoit à Pistoia toujours que le ramassage des obstacles à la circulation dans les rues est organisé aussi, que l'on construit des latrines, que l'on organise l'évacuation des excréments animaux et que l'on préconise le non-vagabondage des porcs. Le ramassage des ordures intègre tout ce qui concerne l'abattage des animaux, des carcasses par les bouchers, et tout cela est réglementé. Alors là, ça a à voir évidemment à nouveau avec le dégagement de miasmes et la gestion du sang. Et puis toutes les activités de voirie, au fond, sont organisées, ainsi que, très souvent, on revient sur cette question, la réglementation des obsèques. En 1330, donc toujours avant l'arrivée de la peste noire, une nouvelle réglementation des obsèques est publiée, portant limitation du nombre de personnes présentes. Donc, on a le sentiment que dans leur croissance démographique et la gestion de leur croissance démographique et d'activité, les magistrats des villes, les conseils des villes, ont dû intervenir très fortement sur l'organisation, au fond, et la fonctionnalité de la ville. Donc, si on fait le bilan, un petit recensement, dans 14 villes italiennes, les bureaux d'entretien des routes sont ouverts dès la fin du XIIIe siècle. Et au fond, vous voyez que cette question du bureau d'entretien des routes, c'est une question de santé publique et de salubrité publique, surtout dans la perspective de la médecine hippocratique. Et 17 vont ouvrir à nouveau dans les premières décennies du XIVe siècle jusqu'à l'arrivée de la peste noire. Donc, cela veut dire qu'il existait bien avant la peste noire un souci de prophylaxie urbaine, car au fond, il s'agissait vraiment d'organiser et de gérer, de maîtriser la croissance démographique de la ville. On peut en conclure qu'au fond, l'épidémie de peste noire n'a fait que renforcer la vigilance et le contrôle de l'application de très nombreuses mesures déjà prises. En revanche, si on s'intéresse aux dispositifs de peste bien connus parce qu'ils ont ils se sont ancrés pour 5 siècles ou presque, on s'aperçoit que les léproseries sont converties en hôpital pour pestiférer. Alors les léproseries, parce que ça faisait partie des personnes qui étaient effectivement mises à l'écart de la cité bien avant la peste noire, et qu'on va réutiliser là, à ce moment-là, ne serait-ce que parce que la lèpre est en voie de régression. Donc les léproseries sont converties en hôpital pour pestiférer. Le meilleur exemple, le plus connu, c'est celui d'Avignon et du pape Clément VI en 1348. Les quarantaines, les fameuses quarantaines, sont mises au point et appliquées rigoureusement à partir de 1377 à Raguse. Les lazarets, c'est-à-dire le lieu où l'on enferme les bateaux et leurs cargaisons et les équipages le temps de la quarantaine, ce n'est visiblement à Venise, dans l'île des Lazaristes, en 1423. Et enfin, les cordons sanitaires censés protéger du côté terre, si je puis dire, se développent peu à peu, mais suivant une chronologie aussi large que celle que je viens de préciser. Donc, il s'agit bien de mesures systématisées à la suite de l'arrivée de la peste noire et des importations suivantes, mais leur échelle chronologique et celle de décennies et non de mois ou d'années. Donc ce sont des choses qui se mettent en place, mais qui arrivent à leur perfection, j'allais dire, au moment où la peste peut-être petit à petit se retire d'Europe occidentale. Le fameux Lazaret de Mahon à Minorque, qui est très spectaculaire, est construit à la fin du XVIIIe siècle. Les règlements de peste que l'on connaît le mieux, au fond, et qui sont le plus détaillés, sont les règlements de la peste de 1720-22 à Marseille et en Provence, et qui mettent en place exactement toutes les mesures nécessaires et la manière de les appliquer. Donc, tout cela a pris du temps. Alors, deuxième dossier spécifique, tuberculose et îlots insalubres. Alors là, je vais m'appuyer sur un de nos collègues, les travaux d'un de nos collègues, Yankel Fijalkov, qui avait écrit ce livre au titre curieux, La construction des îlots insalubres. Mais c'est un peu un farceur, donc c'est normal qu'il ait joué sur les mots. C'est plutôt la destruction des îlots insalubres, en l'occurrence. Mais la construction, c'est parce que c'est la façon dont on les définit. Publié à l'Harmattan en 1998. Donc, on est à une période, là, j'ai indiqué comme premier alinéa la suite des casiers sanitaires et les nouvelles élites de la République 1878. Alors, qu'y a-t-il devant cette ligne, derrière cette ligne? Les nouvelles élites de la République, ce sont les nouvelles classes de chair à gambetta, si vous voulez, ce sont des personnes d'origine bourgeoise, certes, mais souvent appartenant ou bien à la franc-maçonnerie, ou bien de tradition juive, ou bien protestante, et un peu moins souvent catholique conservateur, comme sous le Second Empire. Et les élections de 1878, les élections municipales, voient l'arrivée aux commandes, si je puis dire, de ces groupes-là. Donc des personnes qui vont vouloir agir sur les grandes questions de l'époque, la croissance démographique, la pauvreté, les taudis, la mortalité des plus jeunes et des plus pauvres, etc. Donc on est en 1878, vous voyez, le bureau municipal d'hygiène, je parlais d'institutionnalisation tout à l'heure, du Havre et de Nancy, sont créés. Le Havre d'abord, ça va vous faire plaisir, en Normandie en tout cas, même si c'est de l'autre côté de la Seine, en 1879. Et la découverte de corps du bacille de la responsable de la tuberculose, c'est édition 82, donc vous voyez, il y a très peu de laps de temps entre les deux. Et ces bureaux municipaux d'hygiène ont, sous la responsabilité d'un médecin nommé par le maire, le devoir d'organiser, au fond, tout ce qui est maintien de la santé publique et limitation du nombre d'épidémies endémies, dont j'ai donné la liste tout à l'heure. Mais dans ce moment particulier de développement de l'hygiène publique et de lutte contre les épidémies, une maladie arrive en première ligne dans celles qui doivent être éradiquées, dans les peurs à la fois sociales et politiques, celle de la tuberculose. Alors on pourra peut-être dans les discussions revenir là-dessus. Bon, la tuberculose a été aussi un grand sujet pour la littérature, c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter en 3 minutes, mais les premières statistiques à partir des casiers sanitaires, des bureaux municipaux d'hygiène, mais aussi organisées à partir de l'échelle nationale, aboutissent à l'évaluation du nombre de décès par maladie, par grand type de maladie, dans les années 80-90, et on s'aperçoit que la tuberculose est certainement responsable de 140 000 décès, dit-on. Alors c'est un peu de propagande, c'est Bertillon qui est derrière cette affaire, il y a pas mal de double comptes, mais même si on dit 80-90 000, c'est beaucoup. 90 000, c'est pas loin des décès qui ont eu lieu lors de la première épidémie de choléra de 1832, où il y a à peu près 100 000 morts. Donc on est dans ce cadre-là. Et comment va-t-on lutter contre la tuberculose? Très vite, les statistiques, en particulier les statistiques sur Paris, si je regarde la France pour l'instant, mettent en évidence qu'il y a un lien fort. On ne peut pas parler à ce moment-là de corrélation statistique, mais un lien fort entre le fait d'habiter dans de mauvaises conditions, des logements pauvres où l'on s'entasse, des logements humides, étroits, peu ventilés, peu aérés, et la survenue de tuberculose. Et donc on va décider de définir la maison tuberculeuse, l'immeuble tuberculeux ou l'îlot tuberculeux à partir du nombre de décès de tuberculose qu'on y enregistre. Donc, si pendant une année, il y a plus de 5 décès de tuberculose dans un immeuble, il va être classé immeuble insalubre. On dira même immeuble tuberculeux, comme si le bâti générait la maladie. Et vous voyez, c'est aussi une occasion pour moi de souligner qu'au fond, il n'y a pas de rupture, comme quelquefois, quand on écrit un peu vite, on pourrait le laisser penser, entre la pensée néo-hippocratique et les découvertes de la jeune bactériologie. Même si, évidemment, les logiques sont complètement différentes, l'administration de la preuve aussi, mais dans les faits, quand il s'agit de passer à la pratique et à l'action municipale, en tout cas sur la lutte contre la tuberculose, eh bien, au fond, la médecine néo-hippocratique et la jeune bactériologie disent la même chose. La médecine néo-hippocratique vous dit que ces endroits peu ventilés, humides, nauséabonds, dégagent des miasmes dans lesquels peut se développer, va se développer la tuberculose. Et la jeune bactériologie vous dit le bacille de corps se multiplie et vit beaucoup mieux si dans les milieux humides et non ensoleillés. Donc il y a des convergences comme ça qu'il ne faut pas négliger parce qu'au fond, la pensée néo-hippocratique ne nous a pas entièrement abandonné, je crois, en dépit de tout le corpus de médecine issu de la bactériologie et de la biomédecine. Et au fond, ce sont des. Alors, on va avoir comme ça la définition d'un immeuble à abattre et remplacer par un autre qui serait de facture plus moderne et plus hygiénique, et en général qui devient un immeuble de logement social, si bien qu'on aura les plus beaux, enfin les plus beaux, en tout cas à Paris, les immeubles les plus novateurs sur le plan sanitaire dans le domaine de l'architecture de logement social, à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e. Mais au fond, quand on va passer à la délimitation d'îlots insalubres, parce qu'il y a un nombre d'immeubles insalubres en proximité, telle que la définition au fond de l'îlot découle d'elle-même, et que la décision va être prise, une fois avoir classé l'îlot insalubre, de le démolir, de le raser, de construire à nouveau des immeubles répondant aux nouveaux critères de l'urbanisme et de l'hygiène, fondés aussi sur l'éclairage et l'aération, la ventilation, et l'éclairage au soleil, je voulais dire. Alors enfin, je voudrais revenir maintenant sur le troisième point, un retour sur les ressorts de l'action. Alors, on pourrait en distinguer beaucoup. J'en ai sélectionné trois qui me paraissent principaux et qui fonctionnent en complémentarité, en fait. D'abord, on voit bien qu'il a fallu, à ce moment, répondre à la croissance démographique, gérer les foules de travailleurs urbains. C'est vrai des villes italiennes du XIIe et du XIIIe siècle. Elles le font selon la pensée hippocratico-hellénique, comme on dit parfois. Elles le font aussi parce que la croissance est générée par une intense activité économique d'atelier et de fabrique qui suppose l'arrivée d'une nombreuse main-d'œuvre. Ensuite, cette croissance urbaine, vous la retrouvez à ce moment de l'histoire récente, dans les villes anglaises et françaises à la fin du 18e ou au 19e siècle, par exemple, que vous preniez Liverpool, Manchester, Londres évidemment aussi, ou plus près de nous, Le Havre, sa population double quasiment en 30 ans, entre 1851 et 1881. Donc vous imaginez bien que quand le bureau municipal d'hygiène est créé en 1879, on est au sommet, si je puis dire, d'une phase de croissance très très forte et que les conditions urbaines de vie des populations se sont énormément détériorées. C'est l'un des arguments d'ailleurs qui plaide en faveur de la création de ce bureau municipal d'hygiène. Et si vous prenez Nancy, l'autre ville qui innove en créant son premier bureau municipal d'hygiène également, sa population croît un peu moins rapidement si on considère la même période 1851-1880 que Le Havre, mais à peine. Elle est à peine en dessous du doublement. Donc on a là des phénomènes qu'il faut gérer quand on est le magistrat de la ville, le conseil de la ville. Et on le gère évidemment à la fois par la voirie et par l'organisation du bâti. Partout, évidemment, on a de fortes progressions urbaines de la population ouvrière. Et donc, vous gérez à la fois le calme social, j'allais dire, la prospérité de la ville et la santé publique. Deuxième point, organiser la ville, maintenir son ordre social, sa prospérité. Effectivement, la priorité principale de ces comtés urbains qui sont dominés en général ou par les grands marchands ou par la bourgeoisie urbaine est de maintenir la prospérité des activités de production et d'échange en organisant donc un ordre urbain qui permette d'atteindre ce but. Alors, il y a un exemple célèbre que je vous raconte, mais rapidement, de positions et d'actions différentes entre Brême et Hambourg lors de l'épidémie de choléra de 1892. Ces deux villes, deux grandes villes, deux grands ports, sont deux ports de transit et d'émigration des Européens de l'Ouest, de l'Est, voire venant de Russie, vers les États-Unis. Et lorsque l'épidémie se déclenche, évidemment, toute une partie de leur prospérité est mise en question. Puisque, logiquement, il faudrait arrêter les flux de voyageurs aux limites de l'Allemagne, enfermer à résidence ceux qui sont déjà arrivés dans les deux villes et ne les empêcher de traverser et donc d'embarquer. Et donc, ça fait effectivement beaucoup de moins-value pour tout le monde, pour les hôteliers qui les accueillent, pour les restaurateurs et pour les compagnies maritimes. Brême fait ça, interdit la circulation, refuse l'arrivage des trains, etc. Et Hambourg fait l'inverse, c'est-à-dire qu'Hambourg donne la priorité au grand négoce, au fond, au maintien des activités portuaires et maritimes, et différence en résultat entre les deux, c'est qu'à Brême, on compte des décès de choléra sur les doigts d'une main, et à Hambourg, il s'agit de l'épidémie de choléra qui a fait le plus grand nombre de morts au cours du XIXe siècle, alors qu'il s'agit d'une date tardive et qu'en France, par exemple, il n'y a pratiquement plus de choléra à ce moment-là. Je passe au point suivant. Donc, en ce sens, on voit bien que l'arrivée d'une épidémie casse l'organisation de la production, déstabilise le corps social et surtout les plus pauvres qui sont toujours en première ligne. Donc, on peut penser au fameux ouvrage de Chevalier, Classe laborieuse, classe dangereuse, qui montrait bien comment, au fond, par les bourgeoisies gérant les villes, ces afflux d'immigrants absolument indispensables à la croissance et à la prospérité de l'économie étaient aussi jugés comme des classes dangereuses à contrôler de façon assez stricte. Ensuite, ces mesures de lutte contre les épidémies importées, donc les grandes épidémies, pandémies, peste, choléra, fièvre jaune, ou endémiques sur le plan local, donc plutôt variole, rougeole, scarlatine, coqueluche, typhoïde et tuberculose, permettent d'aboutir en fait à une bien meilleure organisation du travail dans la ville. Et ça apparaît dans de nombreux documents écrit à la fin du XIXe siècle dans les grandes villes européennes. Enfin, elles peuvent aussi constituer des arguments développés en faveur, donc des arguments politiques, j'allais dire, développés en faveur du soin que l'on prend des classes populaires. Et là, je vous renvoie à un grand livre, vraiment, de Christopher Hamlin, Public Health and Social Justice in the Age of Chadwick, qui montre qu'au fond, le grand programme de sanitation, vous savez, de multiplication des réseaux d'égouts et d'adduction d'eau, est un programme qui doit effectivement, bien sûr, améliorer la santé publique dans les grandes villes, mais aussi couper l'herbe sous le pied des mouvements chartistes et des mouvements de contestation du capitalisme naissant, voire triomphant à ce moment-là en Angleterre. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on saisit à ce moment-là quelles sont qu'il y a plusieurs dimensions au fond à ce même projet et que les objectifs principaux ne sont pas toujours non plus d'améliorer la santé publique seulement. Enfin, l'idéologie du progrès remplace celle de la pureté. Ce qui dominait dans les villes italiennes face à la peste noire, c'était aussi, alors j'ai beaucoup parlé de voirie, il n'y a pas que la voirie, c'était aussi la recherche de pureté spirituelle. C'est la raison pour laquelle on organise des processions, on expulse les prostituées et on essaie de faire en sorte qu'au fond, il n'y ait pas de responsabilité collective face à Dieu qui pourrait être tenté de se venger en envoyant une peste mortelle. Un petit peu plus tard, mais ça existe, je vous l'ai dit, à partir du XIIIe siècle, une chasse aux miasmes délétères, comme on dira plus tard, s'organise dans toute l'Europe, du XIIIe au XIXe siècle, et qui là aussi est une recherche d'une certaine manière de pureté, c'est-à-dire d'absence d'odeur méphitique, de mauvaise odeur, de dégagement d'odeur pestilentielle, comme on disait au XIXe, etc., etc. Et puis, dans la mesure où l'idéologie du progrès qui s'incarne vraiment, c'est l'une de ses dimensions essentielles sûrement, dans la médecine et donc dans la lutte contre la mortalité, les mortalités, les épidémies, cette idéologie du progrès, c'est elle qui conduit à applaudir évidemment l'initiative de la vaccination contre la variole et à déclarer dès les années 1820 que grâce à l'excellence de la gestion et de la civilisation, comme ils le disent à ce moment-là, la lèpre a été vaincue, la peste aussi, effectivement, il n'y en a plus en Europe occidentale depuis celle de 1722. La variole est sur le point de l'être, disent-ils, et donc, au fond, c'est ce qui se met en place à ce moment-là, c'est le credo dans la force de la recherche, de la science, comme levier pour le progrès social aussi. Et puis, évidemment, quelques décennies plus tard, l'envol de la bactériologie apporte une confirmation éclatante de cet engagement et de ces croyances, puisque en deux décennies, pratiquement, l'ensemble des responsables des maladies bactériologiques, des maladies bactériennes en tout cas, sont identifiés et on peut alors commencer à préparer des vaccination ou des sérums. Cette marche continue, si vous voulez, sur le progrès, sur la voie du progrès de la science, se retrouve aussi dans l'entre-deux-guerres. Les sulfamides apparaissent, puis les antibiotiques à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on entend claironner dans les couloirs de l'OMS dans les années 50 et 60 qu'au fond, il s'agit d'un problème de temps, mais toutes les grandes maladies infectieuses vont être éradiquées une à une. Et le programme commence par la variole, sur l'ensemble. Alors quand je parle d'éradication cette fois-ci, j'ai changé d'échelle. Avec l'OMS, je passe à l'échelle mondiale. Et c'est ainsi que la variole est déclarée éradiquée en 1980, puis la fièvre bovine quelques temps plus tard. Entre les deux, on avait raté de peu l'éradication de la poliomyélite, qui est toujours, du coup, au programme, etc., etc. Mais tout cela génère, si vous voulez, une forme d'assurance très forte à la fin des années 60 et 70 dans le fait que l'horizon historique promis, c'est l'horizon de disparition des grandes épidémies et des maladies infectieuses. Alors évidemment, la décennie 80 est difficile à vivre, 1980 est difficile à vivre, parce que c'est précisément le moment de l'apparition du sida, contre lequel on ne peut rien pendant très longtemps, et puis de l'émergence de maladies nouvelles liées à des moustiques nouveaux ou des virus nouveaux, et puis aussi l'émergence la réémergence de certaines maladies anciennes avec plus de force, comme par exemple les fameuses tuberculoses résistantes. Alors d'autres questions comme ça, maintenant pour terminer et préparer une conclusion, puisque je pense que oui, il est temps. Au fond, des questions se posent aujourd'hui, après ce grand panorama rapidement tracé. Il y a eu toutes ces nouvelles alertes, ces maladies émergentes, réémergentes depuis les années 90 en particulier, des nouveaux risques bien identifiés, des risques épidémiques à côté desquels nous sommes passés, j'allais dire, hein, le SRAS, la grippe H1N1 de 2009, le MERS, Ebola. Et alors il y a eu des mobilisations fortes, par exemple, lors de la grippe H1N1 de 2009-2010, mais tout cela n'a pas abouti à des dispositifs nouveaux dans les villes, me semble-t-il. La gestion des épidémies de grippe depuis la fin du XIXe siècle, date à laquelle on peut estimer à peu près les dégâts qu'elles ont commis, constitue des échecs répétés, mais qui sont au fond acceptés avec résignation. Les 100 000 morts de la grippe dite russe de 1889-90, bon. La fameuse grippe espagnole de 1918-19, probablement 400 000 morts en France, bon, dommage. La grippe asiatique de 1956-57, sans doute 20 000 morts, bon. 1968-70, 35 000 morts pour la grippe de Hong Kong. Et jusqu'à ces dernières années, la grippe, dont je parle beaucoup parce qu'il s'agit d'un virus au fond et qu'on n'est pas loin du Covid, et qu'on est là sur l'une des frontières, vous le sentez bien, de ce que la médecine peut contrôler ou pas. Et même ces dernières années, en 2016-17, il y a quand même eu près de 20 000 morts de grippe saisonnière, comme on dit, en France. Donc, une forme de résignation, d'acceptation, de consensus qui fait que la grippe, bah oui, on laisse passer, il y aura des morts. Ensuite, précisément, puisque nous avons cette nous sommes confrontés de façon récurrente à cette lutte contre les virus. Comment l'aspect sanitaire de cette lutte a-t-il été pris en charge dans les villes, dans les transports publics, dans l'architecture, dans les systèmes de ventilation, dans la désection, dans la détection même des foyers possibles? Les villes aussi, ça, tout cela conduit à me poser une autre question au fond. C'est si les villes, qui avaient été des lieux d'expérimentation forte pour la santé publique dans le dernier quart du XIXe siècle, n'ont pas totalement abandonné cela aux mains de l'État aujourd'hui. Et si je pense maintenant plus largement au discours de santé publique, aujourd'hui, on voit bien que le discours général est peu orienté vers les villes et peu orienté vers la prévention. Et je me demande vraiment, c'est une question en tout cas qu'on peut poser, si le rôle, le discours et la mobilisation contre la pollution, dont il n'est pas question de discuter la légitimité, hein, qui a pris place en haut de l'agenda politique des municipalités, n'a pas relégué beaucoup plus loin celui sur l'épidémie. Alors, pour conclure, il faut bien conclure. Alors, je rappelle quand même, bien sûr, que les épidémies ne sévissent pas que dans les villes, elles ne sont pas uniquement gérées dans le cadre municipal. Mais on a fait des modélisations, on a bien vu par des observations géographiques et des cartographies que les sites sont des grands lieux de redistribution, si je puis dire, et de diffusion des épidémies. La dimension internationale importe aussi, y compris dans ses effets de domination. Alors, ce n'était pas exactement le lieu d'en parler, mais je vais quand même en parler en conclusion. Parce qu'au fond, on a pu être tous choqués par la façon dont Trump avait baptisé le coronavirus « Chinese virus ». Bon, mais cela renvoie pour un historien à autre chose qu'à une guerre actuelle, économique et politique. Il renvoie à des schémas de domination mondiaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que si l'English System a pu se mettre en place dans l'Europe occidentale dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est parce que les puissances occidentales, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ont suffisamment, ont pu, du fait de leur puissance, faire suffisamment pression sur les pays du Proche-Orient pour qu'ils prennent à leur charge, j'allais dire, l'organisation d'un grand cordon sanitaire tendu d'Istanbul à Alexandrie, évitant que choléra et peste ne franchissent, au fond, cette limite et puissent se diriger vers l'Europe occidentale. Et aujourd'hui, on a bien vu que, au fond, cette question de la domination était essentielle, parce que la domination, elle permet de rendre le pays dans lequel la maladie apparaît responsable des mesures à prendre afin que cette maladie ne puisse pas en sortir. C'est ce qu'ont fait les Américains, les États-Unis, avec l'Europe, lors des grandes épidémies de la fin du XIXe siècle. Elles accusaient les villes, les ports, les pouvoirs européens de ne pas suffisamment bien faire leur travail, c'est-à-dire de ne pas suffisamment bien identifier les personnes porteuses de la maladie pour les empêcher de voyager et les empêcher de prendre le bateau et de se diriger vers les États-Unis. Et au fond, on pourrait relire le sujet qui est apparu entre Chine, États-Unis et OMS à cette lumière-là. C'est qu'au fond, dans l'effet de bascule et la volonté de s'imposer sur la scène internationale, la Chine joue aussi, au fond, à la puissance qui n'a pas de compte à rendre, même à l'OMS, d'une certaine manière, et qui ne prendra pas en charge à sa charge toutes les mesures qui doivent éviter que l'épidémie voyage autour du monde. Dernier point, ces épidémies sont tout de même un enjeu pour les prochaines décennies. On a cru, je pense, un peu vite qu'elles appartenaient à un passé révolu. Nous voyons bien actuellement que ça n'est pas le cas. Voilà, merci.